Je vais parler aujourd'hui des sources de la foi. Avant d'aborder les grandes hérésies des XIIe et XIIIe siècles, l'abbé Huvelin, dans son histoire de l'Église que je suis avec soin, a inclus quelques réflexions sur la foi et sur les fondements de la foi selon l'esprit catholique. La foi est une source de discussion sans cesse renaissante que l'on pense aux débats actuels sur la liberté religieuse. Contrairement à ce que disent les musulmans, le christianisme n'est pas une religion du livre, d'un livre qui serait tombé du ciel comme ils le pensent du Coran. Les livres de la Bible sont inspirés mais non dictés. Les évangiles ont été écrits 30 ou 40 ans après l'enseignement du Christ, non pas un siècle comme le prétendent certains rationalistes. Le Christ n'a rien écrit, Socrate non plus d'ailleurs. Les premiers chrétiens furent convertis par des prédications et des témoignages, le plus souvent sanglants. N'oublions pas que le terme martyr signifie témoin. La foi a été transmise par Louis, qu'Aristote appelle le sens de l'intelligence. Au cours de son enseignement, le Christ a utilisé différentes méthodes, mais chacune a ses limites. Il y a eu les miracles. Mettons à part les tours de magie d'illusionnistes parfois surprenants. J'ai vu dernièrement sur Internet une jante d'âme coupée en deux puis recollée. Elle s'est relevée toujours souriante. Cela dit, même lorsqu'elle sort des phénomènes naturels, l'intervention du ciel n'est jamais secondaire, même si elle reste discrète, voire secrète. Mais elle n'est pas toujours reçue aussi dignement qu'il eût été nécessaire. On cite le cas du docteur Alexis Carrel, qui avait dit en regardant une malade à Lourdes, « Si elle guérit, je croirai ». Elle a guéri, mais il ne s'est converti que plusieurs années plus tard. Un miracle n'est souvent reçu que comme une faveur. Souvent, la reconnaissance est remise à plus tard. Sur les 10 lépreux guéris, un seul est revenu dire merci. Le vrai sens du miracle n'est pas évident tout de suite. Qu'est-il le plus facile à dire « Tes péchés te sont remis » ou « Lève-toi et marche ». Les miracles peuvent même inquiéter. Après que Jésus eut chassé dans un troupeau de porcs la légion de démons qui torturait un gérasénien, les gardiens le prièrent de partir. Ils avaient peur. Peut-être aussi ont-ils trouvé que la perte des porcs revenait cher. Enfin, il n'y aura jamais assez de miracles pour ceux qui ne veulent pas croire. À la veille de la Passion, le Sanhédrin demandait encore un signe venant du ciel. Les miracles constatés pendant les persécutions n'ont été qu'une raison suffisante que pour un petit nombre. Il en est de même de Lourdes. En conclusion, les miracles sont un témoignage. Dans ce sens, certains disent maintenant un signe. Autrement plus fort, il est vrai que le signe de la main qu'on fait en se disant au revoir. Un miracle est un témoignage de la bonté infinie de notre Sauveur qui vient consoler ceux qui pleurent. Ce sont des sourires de notre Sauveur. Deuxièmement, l'affirmation. On pourrait dire le prophétisme. La déclaration publique de l'orateur quant au rôle éminent qu'il a à tenir, ce ne peut être qu'un simple gourou, il y en a eu de tous les temps. Quand j'avais 20 ans, c'était le Christ de Montfavet. Depuis, il y a eu Moon, le rabbi Gamaliel disait qu'il n'en manquait pas de son temps. Dans tous les synoptiques, le Christ nous a prévenu qu'il se multiplierait à la fin du monde. Beaucoup viendront sous mon nom et ils égareront bien des gens. Le faux prophète prend souvent la voix de Dieu pour servir ses propres intérêts. Il faut donc être prudent en la matière. Le Christ a hautement proclamé sa divinité dans des propos relatés en particulier dans l'évangile de saint Matthieu. Il le proclama solennellement lors de son procès. Vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite du Tout-Puissant. Es-tu le Messie ? Je le suis, ou tu le dis toi-même. Mais les prêtres ne voulurent pas le croire. Mieux, ils eurent l'aplomb de dire quelques heures plus tard qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. L'aurait-il fait qu'il n'aurait pas cru davantage. Saint Luc l'avait relaté lors de la parabole du mauvais riche. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. La troisième chose, c'est le livre pur, reçu comme une loi, à l'instar du Coran que les musulmans disent sacré. Le Coran serait en quelque sorte le verbe, l'expression de Dieu, mais bien limité en quelques pages. Comment accepter de voir le Créateur se limiter à quelques mots? Le Coran est surtout une loi d'une rigidité absolue que nul ne saurait discuter. notons en passant que les livres ne sont apparus que quelques milliers d'années après l'homme. Personne n'a pensé à une Ève apprenant à lire à ses enfants. De toute façon, un livre ne peut se passer de commentaires. Les musulmans sont les premiers à utiliser des hadiths pour résoudre les contradictions du texte primitif. Les sages chinois ont surtout laissé des aphorismes. Un livre, un texte, ne saurait constituer une loi immuable. Les constitutions républicaines, considérées par certains comme la loi et les prophètes, font l'objet de modifications appelées amendements tous les 10 ans, souvent nettement plus souvent. Il y a aussi l'enseignement qui relate l'enseignement oral. La sagesse entre par les oreilles, disait Aristote. Le Christ a enseigné de plusieurs manières. Vis-à-vis des docteurs de la loi, il s'est appuyé sur les Écritures en les incitant à regarder plus haut, à voir l'esprit au-delà de la lettre. Cet aspect du Nouveau Testament a été particulièrement développé par saint Paul. Il n'est que de relire les discussions au sujet des viandes consacrées aux idoles. Vis-à-vis des païens, saint Jean relate qu'il annonçait le côté universel de sa mort, si le grain ne meurt. Au peuple d'Israël, le Christ a parlé surtout en parabole pour tenter de faire saisir la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est aux apôtres qu'il a confié le plus important de son message. Un message très simple dans son principe. Dieu nous aime, mais parfois bien difficile dans ses détails. Sommes-nous parvenus à en saisir toutes les modalités ? Le plus profond est certainement ce que l'on appelle le discours sacerdotal, les chapitres 13 à 17 de l'évangile de saint Jean. Il y a là l'essentiel de la doctrine chrétienne, de la vérité. Toutefois, Jésus a prévenu dans ce discours, « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, le paraclet, il vous guidera vers la vérité tout entière. » L'aide de l'esprit de vérité, l'aide du Saint-Esprit reste indispensable dans toute la durée de l'Église et peut-être maintenant plus que jamais. Il reste à étudier le rôle de la raison. J'aimerais mieux parler de l'intelligence. Un mariage intelligent est autrement plus attrayant qu'un mariage de raison. Mais raison est le terme consacré. La raison a un rôle éminent dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, elle nous invite à tenir compte de ce que certains appellent le miracle permanent du développement de l'Église, en dépit des persécutions, des hérésies et des schismes. En janvier dernier, j'ai appris l'édification dans le royaume de Bahreïn d'une basilique dédiée à Notre-Dame d'Arabie. En dépit de disputes, parfois à la limite du grotesque, la barque de pierre résiste envers et contre tout, et la tempête est loin de se calmer de nos jours. De plus, la raison permet par ses propres moyens d'asseoir quelques fondements de notre foi. Par exemple, on peut rappeler que la négation de Dieu implique l'éternité de la matière. Mais c'est une loi physique, et même l'expérience quotidienne le montre, la matière s'use. Il n'y a pas de mouvement perpétuel. Les physiciens disent « l'entropie ne fait que croître ». Il faut donc admettre que la dite entropie arrive à diminuer en quelques lieux bien mystérieux. La permanence et la cohérence des lois de la physique et de la chimie, leur compatibilité avec l'esprit humain est une autre énigme. Einstein était admiratif sur ces points. Il a dit « Le plus surprenant est que cela est compréhensible. » Par le simple exercice de la raison, Aristote est arrivé à la nécessité d'un moteur immobile. Tout change, mais il y a au milieu quelque chose qui ne change pas. La nature est pleine de changements, dû à des moteurs qui eux-mêmes changent de but et de nature sous l'action d'autres moteurs. Mais toujours en vue de quelque chose de mieux, d'idéal. Au fond de compte, il y a donc un idéal qui ne change pas, un moteur immobile. Je simplifie beaucoup. Aristote voyait dans cet idéal immuable une des définitions du Dieu qu'il propose. Il reste que l'existence de Dieu est un mystère. Un Dieu qui pourrait entrer dans notre petite cervelle ne pourrait être qu'un faux Dieu. Il faut donc chercher sans crainte à approfondir notre foi, à rechercher la vérité dans la foi, comme l'a demandé Jean-Paul II dans son texte « Fides et Ratio ». L'étude des dogmes n'apporte aucun changement, mais un approfondissement, comme le montre l'évolution de la doctrine concernant la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception et l'Assomption ne sont pas des découvertes, mais le fruit de méditation. L'Église a pour mission de creuser la foi en la défendant contre les attaques de l'hérésie. quels en sont les garants? Pendant longtemps, ce furent les conciles œcuméniques, pas les conciles régionaux qui devaient être approuvés au niveau le plus haut. Comme nous l'avons vu, les discussions étaient longues et souvent agitées. Le schisme de 1054 fut lourd de conséquences, car la partie orientale refusa désormais les conclusions de conciles tenues en son absence. Les orthodoxes n'ont pas la même doctrine que nous sur des points importants comme la Sainte Vierge et le purgatoire. La déclaration de l'infaillibilité pontificale, seulement sur des cas précis, rappelons-le, déclaration qui fut aussi cause d'un schisme, eut le mérite de clarifier la situation. Nous savons maintenant que Pierre est le maître à bord. Cela dit, c'est sans crainte qu'il faut chercher à approfondir notre foi. La foi du charbonnier n'est guère bonne que pour les charbonniers. La raison trouve son meilleur dans l'étude de la vérité sous l'autorité des maîtres spirituels, des docteurs de l'Église et du successeur de Saint-Pierre. À partir du Xe et surtout du XIe siècle, le calme politique relatif qui s'établissait de plus en plus en Europe occidentale, les aspirations intellectuelles commencent à se manifester auprès d'une jeunesse qui aimait à réfléchir. Dans le but de favoriser un enseignement qui commençait à être apprécié, les écoles se multiplièrent, en particulier à Paris. On y enseignait le trivium, disons, l'art de s'exprimer, la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et le quadrivium, l'art de réfléchir, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, auquel vint se joindre la théologie. À Paris, les écoles se concentraient dans ce que nous appelons maintenant le quartier latin, autour de Saint-Julien-le-Pauvre, de Saint-Nicolas-du-Chardonnay et de Sainte-Geneviève, où était bâtie la plus vieille église de Paris, qui avait pour devise « rester croyant pour devenir savant ». Les plus illustres professeurs y exerçaient Saint-Anselme, Abélard, Saint-Bonaventure et Saint-Thomas d'Aquin. Les écoles de théologie y furent créées. Nous continuerons maintenant le mois prochain. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, puisque c'est la saison.